Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module du cours MVA Tout savoir pour déployer votre application web dans le cloud Microsoft Azure. Je suis toujours Benjamin Talmar, conseiller technologique Microsoft Azure chez Microsoft France. Si vous avez suivi les précédents modules, ce que je vous encourage à faire, vous avez pour l'instant découvert en quoi Microsoft Azure pouvait vous aider à héberger votre application web. On a vu ensemble les tenants et aboutissants des services Azure Website et Azure Virtual Machine qui vous permettent d'héberger votre code dans Azure. Et nous allons maintenant voir les différentes options que vous avez pour stocker vos données. Dans les prochains modules, on verra comment aller plus loin en mettant en place du cache, un CDN, un Traffic Manager. Et on verra également comment implémenter les bonnes pratiques qui sont nécessaires dans un environnement cloud. Mais tout de suite, place au stockage des données. Ce qui est important de comprendre, c'est les trois possibilités que vous avez de stocker des données dans Azure et même de manière générale finalement. La première possibilité, c'est d'utiliser des fichiers à plat, comme on a l'habitude d'en trouver sur nos systèmes d'exploitation tous les jours, qu'on va pouvoir utiliser dans certains cas dans nos applications web. La deuxième possibilité, c'est bien entendu les bases de données relationnelles qui sont la méthode la plus classique historiquement de stocker des données, par exemple des données sur les produits que vous diffusez sur votre site, sur vos clients, sur vos utilisateurs, etc. etc. Et enfin, la dernière possibilité qui est redevenue très à la mode à l'heure du cloud, c'est le stockage de données en mode NoSQL, c'est-à-dire sans relation entre les différents objets que vous allez stocker. Vous n'avez donc pas de modèle relationnel entre vos différents objets. Ça a un gros avantage, c'est que ça apporte généralement des performances beaucoup plus élevées. L'inconvénient, c'est que vous n'avez plus ce confort que vous apporte une base de données relationnelle sur laquelle vous pouvez faire des jointures, sur laquelle vous pouvez aller assez loin dans le système de requêtage. Donc ces trois systèmes de stockage finalement sont disponibles bien entendu dans Microsoft Azure et selon trois façons différentes. La première, c'est des services finis, des services managés par Microsoft, donc qui vous sont fournis dans la boîte à outils, dans la boîte des services officiels de Microsoft Azure. C'est le cas par exemple pour les services Azure Storage Blob et Azure Storage Files qui vous permettent de stocker des fichiers. On va voir les différences entre ces deux services un peu plus tard. C'est le cas pour Azure SQL Database qui est une base de données basée sur le moteur SQL Server disponible en tant que service, c'est-à-dire que vous n'avez pas à gérer toute la partie serveur la partie serveur SQL finalement. Vous utilisez simplement une base de données qui a été provisionnée pour vous, sur lequel on gère la géoréplication, quand je dis on c'est Microsoft, sur lequel est géré les sauvegardes, etc. etc. Et il y a également les services Azure Storage Tables et Azure Document DB, qui sont des services finis fournis par Microsoft, totalement managés par Microsoft, mais pour du NoSQL cette fois. Le deuxième type de service, c'est les services qui sont installables par vos soins. Finalement, c'est des produits installables par vos soins sur des machines virtuelles comme vous auriez pu le faire chez vous. C'est le cas par exemple de SQL Server qui est tout à fait supporté dans des machines virtuelles sur Azure. C'est le cas de MySQL que vous pouvez bien entendu installer. C'est le cas d'Oracle Database qui est supporté également par Oracle avec qui on a monté un partenariat pour cela. C'est le cas pour des bases de données NoSQL comme MongoDB, RavenHQ, Redis, et Cassandra, etc. etc. Et finalement, c'est le cas pour tous les logiciels que vous souhaiteriez installer sur des machines virtuelles. Rien ne vous empêche de les installer. Quand il s'agit d'un éditeur tiers, par exemple si l'éditeur de ce logiciel est Microsoft, il faut quand même valider avec Microsoft que ce logiciel en question est bien supporté sur Azure. C'est pas tout le temps le cas. C'est pas le cas pour tous les éditeurs non plus. À valider, si vous voulez être supporté par cet éditeur, c'est mieux de vérifier avant que ça ait été testé et que vous pourrez appeler cet éditeur en cas de souci. Et enfin, la dernière possibilité d'avoir un service de stockage, c'est d'utiliser un service qui est disponible dans le store Microsoft Azure. Par exemple, un de nos partenaires diffuse des bases de données MySQL, les gère sur Azure et vous propose de choisir dans le store une offre de bases de données MySQL qui sera gérée par ses soins, par les soins de ce partenaire, sur Microsoft Azure pour votre utilisation. Donc c'est finalement l'équivalent en l'occurrence d'un Azure SQL Database, mais sur le moteur MySQL et qui est géré par un partenaire de Microsoft plutôt que par Microsoft lui-même. Donc au final, Il y a très peu de choses qu'on ne va pas pouvoir faire au niveau stockage de données sur Azure. Pourquoi? Bah notamment parce qu'il y a déjà beaucoup de services fournis par Microsoft pour répondre à l'ensemble des choix de type de stockage. Il y a énormément de services, de produits tiers qui vont pouvoir tourner sur des virtual machines. Et il y a des services qui vont vous permettre, comme celui pour MySQL ou celui par exemple pour MongoDB, pour RavenHQ, qui vont vous permettre d'utiliser des bases de données tierces, non Microsoft, qui vont être gérés pour vous par un tiers. On va tout de suite commencer par regarder ce qui se passe au niveau des blobs, le stockage de fichiers dans Azure Storage Blob, qui est la méthode de stockage historique dans Microsoft Azure. Concrètement, on l'a déjà fait plusieurs fois durant les premiers modules. On a la possibilité dans Azure de créer un service Azure Storage qui va nous permettre d'avoir finalement un compte. Azure Storage, pardon. Ce compte Azure Storage, ici compte Ozo, va nous permettre de créer des conteneurs dans lesquels on va pouvoir uploader, charger des blobs. Ici, j'ai deux conteneurs, un conteneur image, un conteneur vidéo, et le premier conteneur a deux blobs, qui sont deux images, et le dernier conteneur a une vidéo, une vidéo qui est stockée sous forme d'un blob. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces blobs, qui sont donc des fichiers, ont un certain nombre de propriétés, par exemple le content type, ou des propriétés personnalisées que vous allez pouvoir ajouter. Un blob peut être de deux types. Il peut être de type bloc ou de type page. Donc ça fait un nom assez sympa à dire, les blocs blob, voilà, j'y suis arrivé, ou les page blob. Concrètement, les blocs blob, ce sont des blobs qui ont été créés pour avoir les meilleures performances quand on va streamer le fichier, c'est-à-dire quand on va l'uploader ou le downloader du début à la fin, c'est-à-dire dans le même ordre qu'il a été créé. Les page blobs, eux, ont été créés pour les VHD des machines virtuelles à l'origine et ont des très bonnes performances quand on va vouloir changer un certain nombre d'octets dans ce fichier sans avoir besoin de streamer le fichier du début jusqu'à la fin. Donc c'est vraiment ce qu'on veut dans les VHD des machines virtuelles puisqu'on veut changer telle partie du VHD mais on ne veut pas toucher au reste à chaque fois qu'on fait une opération. Donc généralement quand vous allez utiliser ce système de stockage, vous allez surtout utiliser les blocs blob, mais on ne sait jamais, peut-être que vous aurez un cas d'utilisation où vous devriez utiliser les page blob comme on a dû le faire nous pour stocker les VHD des machines virtuelles. Donc ce compte de stockage, et notamment cette partie blob, elle va être accessible à travers d'un protocole REST, donc basé sur HTTP. Et là, j'ai mis la façon dont est construite une URL qui me permet d'accéder à un blob. Donc elle est construite assez simplement avec le nom du compte, avec blob.core.windows.net. On retrouve Windows ici, c'est historique. On l'aurait créé aujourd'hui, on n'aurait certainement pas mis le terme Windows ici, puisque ça n'a rien à voir avec Windows finalement. On a ensuite le nom du conteneur qui est affiché, et enfin le nom du blob. Donc si je fais un get sur un blob public qui est stocké à cette URL, donc un get de cette URL, bah je vais récupérer ce blob dans mon navigateur ou dans n'importe quel système qui me permet de faire des requêtes HTTP. Ce qui est intéressant également, c'est qu'on va pouvoir utiliser un certain nombre de SDK clients qui vont masquer toute cette communication en REST. Accéder à une ressource en HTTP pour faire un get, c'est pas très compliqué, mais quand on va faire un certain nombre de ressources un peu plus complexes et quand on a énormément de choses à faire, avoir un SDK qui nous permet de faire tout ça en .NET, si notre application est en .NET, en Java ou en PHP, etc., plutôt que de se taper finalement toutes les requêtes HTTP à la main, c'est quand même plus pratique. Donc je vous ai parlé des blobs, mais il y a également les files, Azure Files, qui étaient dans la même catégorie du stockage de fichiers. Donc Azure Files, c'est un service qui est apparu très récemment, il y a quelques semaines, qui est encore en preview au moment où je vous parle, et qui a le gros avantage par rapport aux blobs, c'est de fournir, enfin d'être plutôt compatible avec le protocole SMB. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir, dans une machine virtuelle sur Azure, monter un share réseau qui va attaquer directement un espace dans Azure Files. Cet espace va d'ailleurs être appelé un partage, un share, et va nous permettre de stocker des fichiers en utilisant les protocoles Windows qu'on utilise couramment. Donc on utilise couramment quand on manipule dans l'explorateur de Windows, bien entendu, mais également qu'on utilise couramment si on a développé une application qui avait pour habitude d'utiliser le système de fichiers comme source de données, comme repository de données. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une application existante qu'on souhaite migrer sur Azure dans les virtual machines par exemple, et qu'on veut stocker ces fichiers sur un espace partagé entre plusieurs virtual machines, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser le disque local d'une virtual machine, mais on va plutôt utiliser Azure Files qui va nous permettre de ne pas avoir à réécrire la partie de l'application qui accède aux fichiers. Si on a une nouvelle application et que l'on souhaite s'écarter du protocole SMB finalement, pourquoi? Parce qu'on n'est pas forcément sur une virtuelle machine, on est peut-être sur un website, parce qu'on a peut-être envie d'avoir une application qui est attaquable à la fois sur Windows, sur Linux, sur des applications tiers, et que finalement ce qui nous intéresse c'est d'avoir cet API REST et les SDK correspondants, mais que le protocole SMB nous sert pas à grand-chose pour cela, et ben on va plutôt utiliser les blobs. À savoir également que les blobs ont une capacité de stockage aujourd'hui qui est plus importante par conteneur, on peut aller jusqu'à 500 Tera, alors qu'on est un peu plus limité pour les Azure Files. Tout ça peut changer, on est encore en preview pour l'instant sur Azure Files pour rappel. Donc c'est parti, on va faire une petite démo de ces deux mécanismes. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est créer un compte de stockage. Ce compte de stockage, donc je vais le créer, on a déjà créé plusieurs jusqu'à présent, mais on va en recréer un ici. Et pardon, je ne vais pas le créer ici, mais je vais le créer dans cette autre fenêtre qui est une souscription MSDN sur laquelle j'ai activé Azure Files. Vu que c'est quelque chose qui est en preview pour l'instant, j'ai besoin d'activer la preview avant de m'en servir. Dans service de données, j'ai donc stockage, création rapide. Je vais faire temp MVA2. Je vais choisir encore une fois mon data center. J'aime beaucoup Dublin comme vous avez pu le constater. Et je vais choisir une méthode de réplication. Donc pendant que le compte se crée, je vais vous expliquer ces méthodes de réplication. Il y en a quatre différentes aujourd'hui. Le premier, c'est locally redundant. Donc c'est une redondance locale, ce qui veut dire que votre fichier va être répliqué trois fois, enfin chacun des fichiers qui va être stocké, chacun des objets qui va être stocké plus précisément dans votre compte de stockage va être répliqué trois fois dans la même région, dans le même data center si on veut faire les choses simples. Géo-redondant, on va stocker trois fois dans la même région, mais également trois fois dans la région voisine, dans la région qui est appairée à la région principale. C'est-à-dire, si on stocke sur Dublin, on va avoir trois copies à Dublin et trois copies à Amsterdam, qui est la région voisine de Dublin. Si jamais il y a un problème sur Dublin, imaginons que le data center de Dublin ne réponde plus pendant quelques heures, Microsoft va être capable de vous redonner la main sur vos données qui ont été répliquées sur Amsterdam. Mais c'est Microsoft qui va décider à quel moment il vous redonne la main sur ces fichiers-là. Si vous voulez avoir vous le contrôle au moment où vous le souhaitez sur les copies qui vont être faites sur l'autre data center de la région, il faut choisir l'option Read Access Geo-Redundant. Cette option va vous permettre d'avoir la main sur les données finalement qui ont été redondées, les données secondaires et plus seulement les données primaires. Et enfin, le quatrième choix, c'est la zone. C'est-à-dire zone redondante, qui va vous permettre finalement d'être un mix entre locally redundant et géo-redondant. C'est quelque chose qu'on a sorti il y a quelques semaines. Vous avez trois copies. Ces trois copies sont réparties dans une zone, c'est-à-dire dans plusieurs data centers, potentiellement dans la même région ou dans les deux régions qui sont appairées. Donc on est vraiment entre locally redundant et géo-redondant. Ce que je vous conseille, c'est pour vos tests, vous pouvez faire du locally redundant, mais pour vos applications, regardez plutôt le read access géo-redondant avec la possibilité d'accéder à vos données de backup finalement à tout moment sur le data center secondaire. D'ailleurs, j'ai employé le mot backup, c'est pas un backup, il faut faire attention puisque un backup a pour but d'être archivé. Là, c'est vraiment une copie en temps pratiquement réel, vu que chaque modification que vous faites sur un blob est répliquée de manière asynchrone, mais très très vite, sur la copie, sur le data center. Donc si vous supprimez quelque chose par erreur, ça sera supprimé également sur la copie. Donc c'est pas forcément une bonne idée de se servir de ce système pour faire des backups. En attendant que mon compte se crée, je vais ouvrir Visual Studio et je vais ouvrir une application que je vais lancer. Cette application est vraiment une application toute simple que j'ai créée à partir du template par défaut d'ASP.NET Webform en l'occurrence, avec une page d'accueil, une page About, une page Contact. Donc sur cette page Contact, vous voyez que j'ai un bouton pour charger un fichier et pour l'uploader sur le serveur. Ce bouton, ici, on le voit, le contrôle de chargement, le bouton et un petit message qui va me permettre de confirmer si j'ai bien enregistré ou non, si j'ai bien enregistré ou non mon fichier. Si je vois le code, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, ce que je vais vouloir faire, dès que je vais stopper le debug, c'est utiliser Azure Storage pour charger le fichier qui a été uploadé par l'utilisateur dans un blob. Alors pour ça, je vais utiliser le SDK.NET d'Azure Storage. Donc Azure Storage, je vais l'utiliser, je vais le télécharger à partir de Nuget. Il s'appelle encore Windows Azure Storage. Le nom sera certainement changé dans quelques temps. Il m'installe donc ce package qui va me permettre vraiment d'écrire en .NET, en l'occurrence en C Sharp, des choses que j'aurais pu écrire directement avec des requêtes HTTP qui vont bien, en passant les bons headers, etc., etc. Mais ça aurait été beaucoup plus laborieux. Donc ce SDK est directement maintenu par Microsoft, il est open source. D'ailleurs, il est diffusé via Nuget et disponible sur GitHub. Donc une fois que j'ai récupéré ce SDK, je vais pouvoir commencer à coder. Je vais pouvoir commencer à coder le code qui va me permettre d'uploader le blob sur mon compte de stockage. Donc pour ça, la première chose à faire, c'est de créer une connection string. On va la remplir plus tard et d'indiquer dans quel conteneur je vais vouloir stocker mon fichier. Ensuite, je vais utiliser l'API dédiée à Azure Storage pour créer un nouveau compte de stockage, en tout cas un objet me permettant d'accéder à mon compte de stockage. Donc cloud storage account.parse, je vais utiliser ma connection string, storage account connection string. Je vais ensuite créer une référence cloud blob client à l'objet me permettant d'accéder à des objets blob. Storage account point create cloud blob client. C'est à partir de là que je vais avoir mes différents objets qui vont me permettre de créer des blobs, d'uploader des fichiers, etc. Ensuite, je vais avoir une référence à mon conteneur. Pour ça, je vais l'appeler conteneur, ça va être très original. J'utilise mon blob client, get conteneur référence, et vers le nom de mon conteneur, donc qui s'appelle ici conteneur name. Enfin, je vais créer une référence vers mon blob. Ce blob, il n'existe pas encore, mais j'ai besoin quand même de créer une référence pour pouvoir utiliser cette référence pour uploader mon fichier sur ce blob. File upload 1, c'est le nom de mon contrôle d'upload ASP.NET. Je vais récupérer le nom du fichier pour m'en servir comme nom de blob. Et ensuite, j'ai juste à copier le stream qui va être le stream d'entrée sera celui qui vient de mon contrôle file upload et le stream de sortie va m'être donné par mon objet blob qui est donc une référence à mon blob sur mon compte de stockage. Donc là j'ai créé mon stream de sortie. Je l'ai créé avec using pour avoir le bon dispose à la fin bien entendu. Et je vais pouvoir ensuite via l'objet La propriété post-it file de mon objet file upload 1 allait récupérer l'input, le stream d'input que je vais copier dans le stream d'output. Je vais en profiter pour définir la propriété de mon blob qui est la propriété content type. Je pourrais faire utiliser d'autres propriétés, mais je vais faire celle-ci pour l'exemple. Post-it file.content type. Et c'est à peu près tout. Non, je vais quand même en profiter pour faire un petit message de confirmation par la suite. Littéral 1.text égale upload terminé. La dernière chose qui me reste à faire, c'est de remplir cette connection string ici. Donc cette connection string, elle a la forme suivante. Ça ne s'invente pas, donc je vais le copier-coller, ça sera plus simple. Elle indique le protocole que je dois utiliser, ici HTTP, rien de sensible, le nom du compte de stockage et le nom de la clé de stockage. Donc ça, on va les récupérer sur un compte que j'ai créé par la suite, puisque pour l'instant, mon compte de stockage TempMVA2 n'est pas encore créé, mais on va le récupérer sur le compte TempMVA. Donc TempMVA, c'est vraiment le nom du compte de stockage, donc on va pouvoir l'utiliser tout de suite. Ensuite, la clé est disponible ici, dans gérer les clés d'accès. En fait, on a une clé d'accès primaire et une clé d'accès secondaire. Pourquoi? Ça vous permet de pouvoir changer les clés de manière régulière, tout en ayant toujours une clé valide. Si vous avez votre application en production qui utilise la clé d'accès primaire, et que vous voulez changer cette clé d'accès primaire, la première étape c'est d'utiliser la clé d'accès secondaire dans votre application en production, puis de changer la clé d'accès primaire. La clé d'accès secondaire sera toujours valide, et ensuite de changer la clé secondaire si vous le souhaitez, et de pouvoir, après avoir changé la clé d'accès dans votre code en production. Donc là j'ai copié la clé d'accès primaire, et cette clé ici va me permettre d'avoir tout ce qu'il me faut pour pouvoir uploader quelque chose dans le conteneur doc. Ce conteneur doc, il va être créé ici dans l'onglet conteneur de mon interface Azure. Si je vais créer un conteneur ici, je vais l'appeler doc. Et ce conteneur doc, je vais pouvoir lui définir s'il est privé, si c'est un conteneur public, ou si les objets dans ce conteneur sont publics, même si le conteneur en lui-même ne l'est pas. Donc c'est ce que je vais choisir ici. Et j'ai maintenant un conteneur doc qui a été créé dans mon compte de stockage TempMVA. Je vais pouvoir lancer ma page et vérifier que ça fonctionne. Le temps que mon projet compile, je vais récupérer une image sur mon bureau. Je dois avoir quelque chose ici, voilà. Je l'upload. Et si tout va bien, voilà, l'upload est terminé. Pour vérifier, je vais pouvoir me connecter avec Visual Studio à une interface me permettant d'accéder à tous les objets d'un conteneur particulier. Cette interface, je vais la retrouver dans le Server Explorer, ici, dans l'onglet Azure, dans la partie stockage. J'ai eu une petite fenêtre ici qui vérifiait mes credentials. Hein. Rappelez-vous, dans Visual Studio, je suis logué avec les mêmes credentials que mon compte Azure, ce qui lui permet d'accéder à mes informations sur Azure très simplement. Il est en train de me lister les différents comptes de stockage qui sont accessibles via ce compte Microsoft en l'occurrence. Voilà, c'est terminé et moi je veux aller voir TempMVA. Donc TempMVA, dans la partie blob, on retrouve bien le conteneur qui s'appelle doc et on retrouve bien l'image que je viens de charger. Si je double-clique, je vais pouvoir l'ouvrir. Et normalement, elle va s'ouvrir sur pen.net, ça prend un petit peu de temps. Et voilà. Donc ce blob storage, accessible par REST, mais grâce au SDK, .NET, Java, PHP, etc., etc., vous pouvez utiliser le langage de votre choix pour accéder à vos informations, les uploader, les récupérer, les lister, etc., etc. La deuxième façon de faire, et cette fois je vais retourner sur TempMVA2 qui a l'air d'être créé, c'est d'utiliser Azure Files. Vous voyez ici, j'ai un point de terminaison pour mes objets de type blob, mais j'ai également un point de terminaison sur les objets de type files. Ce point de terminaison, je vais l'utiliser tout de suite pour créer un share sur mon système de fichiers Azure Files, qui va être finalement l'équivalent d'un conteneur. Pour ça, j'ai besoin aujourd'hui d'ouvrir PowerShell. J'ai besoin d'ouvrir PowerShell, pardon, PowerShell. Pourquoi? Parce que le Azure Files étant en preview, le portail n'a pas encore été mis à jour avec la possibilité de créer un nouveau share. Donc je vais le faire directement avec un script PowerShell que je vous montre ici, où je vais indiquer le nom du compte, tempmva2, la clé primaire ou secondaire correspondant à ce compte, je la copie ici, et le nom du share que je souhaite créer. Ici, je vais l'appeler partage tout simplement. Je sauvegarde et j'exécute. Et mon share a été créé sur mon Azure Files. Donc maintenant c'est très bien, mais qu'est-ce que ça va me permettre de faire? Ben, ça va me permettre notamment de monter un share réseau, au sens Windows du terme, sur une machine virtuelle qui sera stockée dans Azure. J'ai cette machine virtuelle ici qui est disponible. Je vais m'y connecter en RDP tout de suite. Et je vais vous prouver qu'on peut bien monter ce share réseau. Et je vais tout de suite ajouter le share réseau grâce à la commande netuse. Je vais utiliser la lettre Z. Je vais copier ici le nom de mon compte. Enfin, je vais plutôt le taper, c'est toujours tempmva2. Et cette fois, c'est .file.core.windows.net. Tout à l'heure, c'était blob, ce que je vous expliquais sur la slide. Le nom du share, donc partage, et les informations d'identification. Donc les informations d'identification, aujourd'hui, c'est le nom du compte, donc tempmva2, et la clé primaire. Alors je ne sais plus si je l'ai copié, donc dans le doute, j'y retourne. Oui, je crois que je l'avais copié. Voilà, je vais la coller ici. La commande est passée et on va voir dans mon explorateur, j'ai bien un partage ici qui porte la lettre Z et sur lequel je vais pouvoir utiliser les différentes API Windows que je connais, qui sont peut-être utilisées dans mon application que je souhaite migrer sur Azure. Donc la démo des blobs et des files étant terminée, passons maintenant à la deuxième partie qui est le stockage de données relationnelles. Donc le premier réflexe pour quelqu'un qui fait pas mal de technologies Microsoft comme moi, c'est de voir comment stocker une base de données qui est à base de SQL Server. Donc sur Azure, il y a deux choix. Le premier, c'est d'utiliser un service qui s'appelle Azure SQL Database. C'est l'idéal pour les nouvelles applications. Pourquoi? Puisque c'est un service qui est totalement managé par Microsoft, qui ne demande aucune administration sur la base de données en elle-même, sur les OS sur lesquels tourne cette base de données, qui est automatiquement monitorée sur des bases qui sont automatiquement répliquées plusieurs fois sur plusieurs serveurs différents pour vous donner un haut SLA de disponibilité. En fait, c'est même un SLA de disponibilité très haut, puisqu'on parle de 99,95% de disponibilité par mois. Donc quelque chose qui pourrait être fait sur des serveurs classiques demande un certain nombre de serveurs, des mécanismes comme Always On, etc. etc. Donc c'est vraiment le plus simple pour une nouvelle application. La seule contrainte, c'est que tout SQL Server n'est pas disponible dans Azure SQL Database. Par exemple, si vous utilisez du full text search sur une application existante, c'est quelque chose qui va requérir d'utiliser le full SQL Server, donc le vrai SQL Server, j'ai envie de dire, dans des VM. Cette fois, vous allez donc provisionner des machines virtuelles dans Azure sur lesquelles vous allez pouvoir installer ce que vous voulez. Vous allez pouvoir installer SQL Server, vous allez pouvoir faire des groupes à haute disponibilité avec du load balancing, avec du always on entre vos différents nœuds SQL Server, et là vous allez pouvoir vraiment manager votre cluster SQL Server comme vous l'auriez fait si vous étiez dans votre propre data center ou si vous étiez sur un hébergement traditionnel. Ça a un avantage ici, c'est vraiment la flexibilité que ça vous apporte. Vous faites concrètement ce que vous voulez. Maintenant, ça coûte plus cher en maintenance, en administration. C'est à vous de faire les backups, c'est à vous de gérer la haute disponibilité, c'est à vous de gérer les mises à jour, etc. etc. Donc revenons un petit peu sur Azure SQL Database, qui est l'option vraiment la plus simple des deux. Azure SQL Database aujourd'hui existe en trois tiers, trois niveaux. Ces tiers sont basiques, standard et premium. Comme leur nom l'indique, basique va être utilisé pour des workloads assez légers, alors que premium pour des workloads qui vont pouvoir être assez lourds, jusqu'à des centaines de transactions par seconde. Tous ces workloads vont venir avec plusieurs niveaux de performance. Au total, il y a aujourd'hui 6 niveaux de performance. On est encore en preview sur ces différents tiers. Il y en aura certainement plus lors de la disponibilité générale. Donc, quand vous créez une base de données, vous choisissez un niveau de performance attendu. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez changer ce niveau de performance à tout moment. Donc ça peut être très sympa pour des applications sur lesquelles vous n'êtes pas encore sûr du succès commercial, par exemple. Vous commencez avec une petite base standard et potentiellement 2 mois après, si tout va bien, vous passez sur une base de données premium pour résister à la charge. Ou alors, ça peut être bien également quand vous avez des choses à faire tourner toutes les nuits. Ou alors, pardon, tous les week-ends, des batches que vous allez faire tourner tous les week-ends. Vous allez pour ça passer votre base de données en mode premium le week-end pour que ces batches tournent très rapidement, alors que le reste de la semaine, vous serez peut-être en standard. Donc dans tous les cas, ce qui est important également, c'est que vous avez une reprise d'activité qui est disponible dans ces différents modes, avec la possibilité de récupérer des backups qu'Azure aura fait directement pour vous. Tout est entièrement managé pour vous, vous n'avez rien à faire. Et justement, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais retourner dans mon compte Azure. En l'occurrence, je vais aller sur celui-ci. Je vais aller dans la partie SQL et je vais créer une nouvelle base de données. Cette base de données, je vais l'appeler TempMVA pour changer. MVA. Je vais choisir l'édition basique. Je vais choisir le niveau de performance. En l'occurrence, en basique, j'en ai qu'un. Mais c'est celui-ci que je veux, ça tombe bien. Je vais choisir une taille maximale. À noter que cette taille ici n'a pas vraiment d'influence. Enfin, si elle en a une qui est négative, c'est-à-dire que si vous dépassez la taille maximum que vous avez déclarée, vous serez bloqué. C'est-à-dire que les requêtes d'insertion ne passeront plus. En sachant que si vous prenez la taille maximum de 2 Go, vous serez facturé simplement sur la taille qui est réellement utilisée. En fait, la base de données basique vient avec 2 Go dans tous les cas. Donc si vous déclarez 500 mégas, vous avez payé pour 2 Go, ça va vous brider finalement peut-être à un moment donné si vous risquez de dépasser 500 mégas. Donc moi je vous conseille de toujours voir plus haut que ce que vous avez besoin, ça vous évitera des problèmes par la suite. Et enfin, vous choisissez un serveur ou vous créez un nouveau serveur. Moi, je vais choisir celui-ci et je vais lancer la création de la base. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que cette base va être créée sur un serveur qui n'est pas un serveur physique, qui est un serveur logique. En fait, il y a plusieurs serveurs physiques qui vont faire tourner ma base, un primaire et des secondaires, des réplicas secondaires qui vont être là si jamais il y a un problème. Si je vais sur TempMVA, j'ai des éléments de configuration pour ma base. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller récupérer ce nom de serveur ici et d'aller l'utiliser dans SQL Server Management Studio. SQL Server Management Studio. Pourquoi? Je vais vous montrer que cette base de données va s'utiliser comme n'importe quelle autre base SQL Server, sauf que je n'ai pas à gérer toute la complexité nécessaire à la gestion d'un serveur SQL Server physique. Le login mot de passe comme d'habitude. Et pendant que ça charge, je vais en profiter pour charger un script SQL que j'ai déjà écrit. Je vais lui demander d'ouvrir une requête sur ma base de données et je vais copier mon code TSQL. Ce code, il est tout à fait classique, il n'y a rien de spécifique à Azure. Je l'exécute. Et j'ai bien, en l'occurrence, ma table qui a été créée avec un certain nombre d'enregistrements qui ont été faits dans ma base de données. Donc cette base de données, elle va s'utiliser comme n'importe quelle autre base de données SQL Server. Dans votre application, ça sera la même chose. Vous allez utiliser une chaîne de connexion et vous allez utiliser votre base de données comme si elle était sur le même serveur ou sur un serveur SQL Server classique. Une autre possibilité des possibilités de stockage finalement dans Azure, c'est d'utiliser du NoSQL. Et quand on parle de NoSQL dans Azure, on parle principalement des tables. En tout cas, c'était le cas jusqu'à aujourd'hui, puisque Azure Document Database est sorti à l'heure où je vous parle. Je crois qu'il n'a d'ailleurs pas été annoncé et ça va être annoncé dans les prochaines minutes. Donc, quand vous regardez cette vidéo, ça sera annoncé en preview depuis quelques temps déjà. Donc, ce Azure Document DB, c'est la possibilité de stocker des objets directement en JSON dans Azure. Azure Table, lui, va vous donner la possibilité de stocker des objets encore de manière encore plus simple, puisque ces objets vont être stockés sous forme de propriétés, tout simplement. Vous avez un objet qui a différentes propriétés qui va être stocké dans différentes tables dans votre compte de stockage. Ce qui est intéressant, c'est que de la même façon que les Blob Storage, vous avez tout est géré au niveau REST. Comme vous le voyez ici, avec à peu près la même nomenclature. Et vous avez également les SDK, notamment .NET, mais aussi Java, PHP, etc., qui ont été créés. Ce qui est important à comprendre, c'est que les entités donc, ont chacune un certain nombre de propriétés. Le schéma n'est pas déclaré à l'avance, c'est-à-dire que dans la table Customer, vous pouvez très bien avoir un objet qui va avoir le champ nom et le champ email, et un autre objet qui aura le champ nom et le champ email adresse. Vous faites ce que vous voulez, la seule contrainte, c'est d'avoir pour tous les objets une partition key et une row key. Ces deux propriétés, elles sont obligatoires, c'est elles qui déterminent l'unicité de l'objet. Et c'est sur ces objets-là, sur ces propriétés-là, que vous allez être indexé. C'est-à-dire, c'est sur ces propriétés-là qu'on vous encourage à faire vos filtres, vos recherches, puisque c'est là que ça sera beaucoup plus rapide. Et pour information, il y a une autre propriété qui est gérée par Azure, qui est le timestamp, qui va permettre de gérer l'optimistic concurrency. Donc on va faire tout de suite une petite démo en allant dans le projet TempMVA de Visual Studio que je vous ai montré tout à l'heure. Et cette fois, on va aller sur une page qui consiste simplement à un formulaire très simple qui invite l'utilisateur à taper son nom, son prénom, son email et à valider. Donc je vais tout de suite copier et écrire le code de ce projet, de cette page. Donc, je suis en train de le récupérer ici et je vais le copier-coller pour gagner un petit peu de temps. Donc ce code est très similaire à ce qu'on a fait tout à l'heure finalement avec le Blob Storage. On a une chaîne de connexion que je vais remplir avec la contename et la contkey tout de suite. On a un objet qui va représenter le compte de stockage, un objet qui va représenter la table, enfin plutôt les tables de ce compte de stockage, un objet qui va représenter la table. Cette table, elle va être créée si elle n'existe pas, donc grâce à cette opération Create If Not Exist. Et ensuite, je vais pouvoir créer une entité. Donc cette entité, c'est un objet .NET que j'ai créé ici, mais qui va avoir la particularité, pardon, c'est plutôt ici, qui va avoir la particularité de dériver de table entity. Pourquoi? Ça me permettra d'avoir notamment partition key et row key qui vont être gérés pour moi. Donc j'ai simplement un objet qui a une partition key, un row key et une adresse email. Je vais passer le prénom dans row key, le nom dans partition key et je vais remplir tout ça grâce à les différents textbox que j'ai sur mon interface. Une fois que j'ai créé cet objet, je vais pouvoir utiliser une opération d'insert que je vais exécuter grâce à mon objet de table et ça va me permettre d'enregistrer l'objet dans ma table Azure. Et avant de lancer mon application, je ne vais pas oublier de remplir ma chaîne de connexion avec le nom de mon compte de stockage qui est toujours tempmva2. La clé primaire ou secondaire de ce compte de stockage. Et ma chaîne de connexion est maintenant valide. Le SDK va pouvoir s'en servir pour s'authentifier sur mon compte de stockage sur Azure. Donc je vais maintenant pouvoir remplir mon nom, mon prénom et mon adresse email. Talamar Benjamin, benjamin@microsoft.com. N'hésitez pas si besoin. Enregistré et l'objet a bien été enregistré. Donc ce qui va être intéressant cette fois pour vérifier que tout s'est bien passé comme prévu, c'est de lancer Fiddler que vous connaissez peut-être, qui va me permettre de sniffer finalement toutes les requêtes HTTP qui passent sur mon poste. Je vais relancer avec des informations un petit peu moins valides. Je vais enregistrer ma requête et on voit ici que j'ai deux requêtes qui se sont passées sur tempmva2.tab.core.windows.net. C'est bien le host, le nom d'host du stockage Azure, en l'occurrence des tables, et je vais pouvoir aller inspecter les requêtes qui sont passées grâce à Fiddler. En l'occurrence, on va récupérer tous les headers ici, le texte qui a été envoyé, en l'occurrence ici rien, mais ici sur l'objet, sur la deuxième requête qui consiste à la création de l'objet, on va pouvoir voir que j'ai les informations qui ont été envoyées en JSON et qui ont été envoyées sur tempmva2.tab.core.windows.net avec différentes informations dans le header de la requête, notamment une chaîne de connexion qui est une signature finalement qui est basée sur l'heure, qui est basée sur le login mot de passe du compte de stockage, etc. etc. Donc toutes ces informations-là ont été, enfin toutes ces, ce mécanisme de requête HTTP, de signature, de requête, etc. ont été masqués pour moi grâce au SDK.NET. C'est quand même plus pratique que d'utiliser directement les requêtes HTTP. Et encore une fois, si vous ne faites pas de .NET, pas de problème, ces SDK existent dans différents langages. Enfin, la dernière chose que je vais vous montrer, c'est l'Azure Store qui va vous permettre d'utiliser d'autres types ou d'autres services de stockage qui sont gérés par des partenaires et non plus par Microsoft. Donc pour ça, je vais me rendre dans mon compte de stockage, pardon, dans mon compte Azure, et je vais ouvrir l'Azure Store qui est ici. Dans cet Azure Store, aujourd'hui, vous voyez que j'ai un service qui s'appelle MongoLab Benjat. Ce service, c'est vraiment un service de base de données MongoDB qui est géré par MongoLab pour moi et qui sur lequel des backups sont faits automatiquement, sur lequel il y a un monitoring qui est fait automatiquement pour moi. C'est quelque chose de hautement disponible sur lequel j'ai pas eu à gérer l'installation, j'ai pas à gérer la réplication des données, etc. etc. Et ça, c'est vrai pour Mongo, mais c'est vrai pour un certain nombre de services. En l'occurrence, on va les charger ici en ouvrant l'Azure Store. C'est vrai pour un certain nombre de services, dont des services de données. Je vous parlais de MySQL tout à l'heure. C'est ce qu'on va faire maintenant. On va créer une base de données MySQL grâce à un partenaire de Microsoft qui s'appelle SuccessBrick et qui propose la création de bases de données MySQL dans Azure. Il y a différents tiers qui existent. Un tiers gratuit d'essai qui est celui que je vais utiliser. Mais si vous êtes en production, vous aimerez peut-être utiliser un des tiers plus élevés. Je choisis mon data center. Il n'y a pas forcément tous les data centers disponibles pour tous les services. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à souligner. Vérifiez bien que le service que vous souhaitez utiliser est disponible dans le data center que vous souhaitez utiliser. Je vais customiser le nom qui m'est proposé par défaut. Je vais devoir valider un certain nombre de conditions ici, des conditions juridiques. Voilà. Je ne veux pas d'offre promotionnelle. Et ma base de données va être créée dans quelques secondes. Et vous allez pouvoir l'utiliser dans vos applications sur Azure, de la même façon que vous auriez utilisé une base de données MySQL dans un hébergement plus traditionnel. Voilà, le service MySQL a été créé grâce au partenaire de Microsoft sur Azure et vous avez accès sur cette page de configuration aux informations de connexion qui vont vous permettre de vous connecter à votre base à partir de l'application. Vous avez la possibilité également pour information de mettre à niveau votre base sur un tiers supérieur si vous souhaitez passer du tiers gratuit en l'occurrence vers un tiers payant vous donnant de meilleures performances. Retour au slide. Concrètement, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est la fin du module de stockage des données. Il reste deux modules à ce cours. Le premier, aller plus loin, qui va nous être consacré au cache et aux services que vous allez pouvoir ajouter à vos applications sur Azure, vos applications web sur Azure. Et le dernier va être dédié aux bonnes pratiques que je vous conseille d'utiliser pour toute application déployée dans un cloud, et en l'occurrence dans Microsoft Azure. Petit rappel, si vous avez besoin d'un abonnement à Azure, vous pouvez utiliser l'une de ces trois méthodes l'abonnement MSDN, les comptes Bspark pour les startups et enfin les ressources des abonnements Trial. Je vous dis à très bientôt pour le module 5 de ce cours MVA.